Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
On questionne le monde de demain. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
J'essaie de pas y penser.
Le monde de demain, pour l'instant, ça fait peur, surtout pour les gens de ma génération. De se dire, personnellement, alors que la situation est compliquée, où est-ce que je vais aller ? Mais aussi en tant que société, en tant qu'espèce.
Parce qu'avec tout ce qui se passe, justement politiquement, tous les gouvernements qui se mettent à droite, qui inventent des lois contre la liberté des femmes, ce qui se passe aux États-Unis, franchement, je trouve que ça fait flipper. J'aimerais que le monde de demain y retrouve la paix, que tout le monde arrête de se foutre sur la gueule, que les gens s'acceptent. Surtout qu'il y en ait qui arrêtent de se croire supérieurs, quoi. Parce que ça, c'est aussi flippant de se dire que en fait, quasiment toute la population est gérée par un petit groupe de milliardaires. Mais voilà quoi, pas lâcher l'affaire parce que en ce moment, c'est flippant ce qui se passe. Et justement, encore une fois, c'est à nous, aux jeunes, de se bouger le cul pour justement avoir un monde meilleur.
Pour moi, un monde nouveau, ça m'évoque un peu la peur. Voilà, la peur de l'informatique, de l'IA, de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà.
Je pense que le monde, il ira mieux si on commence tous par se guérir. Donc comment je vois mon monde de demain, c'est déjà mon accomplissement personnel et ma guérison. J'aimerais beaucoup essayer de sensibiliser les autres autour de moi pour qu'eux aussi essayent d'avancer sur ce chemin parce que j'ose espérer un monde de demain meilleur. Maintenant, bien sûr, il me fait peur parce que j'ai aucune envie de grandir dans un monde formaté et assommé par la technologie, les médias et enfin, certains types de médias. Et puis aussi parce que j'ai une aspiration très naturelle et je trouve que plus le monde évolue, plus on s'éloigne de la nature, plus on s'éloigne de qui on était à la base, plus on s'éloigne des énergies qui nous entourent et de la beauté de ce monde qu'il est à la base. Ouais, ça me fait peur le monde de demain, mais je mets tout mon espoir pour que ça change et pour qu'on aille vers le meilleur.
Le monde de demain, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Je sais pas trop, j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai vite d'y penser. Si on parle sur le milieu de l'IA, justement, tout ce qui est par rapport aux dérives de deepfake, ce genre de trucs, ou en tant que meuf, voilà, qu'on puisse réutiliser ton image pour faire des trucs bizarres, ça m'angoisse terriblement.
Le monde change à toute vitesse. Entre promesses technologiques et intelligence artificielle d'une part, et nouvelles philosophies de vie basées sur la croissance des vivants et les relations d'autre part, que penser du monde nouveau qui s'offre à nous ? Cet automne 2024, l'association BioVallée nous convie à la rencontre d'intervenants, universitaires, chercheurs, experts de terrain, pour enrichir notre vision du monde et nous aider à faire des choix, en conscience, pour notre avenir commun.
Licence France est une société familiale implantée à Eure dans la Drôme, dont l'activité est la production et la commercialisation d'ingrédients naturels pour les applications de parfumerie ou d'arômes alimentaires et ou de cosmétiques.
Jean-Pascal Abdelli, directeur.
Voilà, et on travaille dans la Drôme particulièrement avec un partenariat étroit avec une coopérative qui s'appelle Sika Bioplante qui regroupe cinquantaine d'agriculteurs avec lesquels on travaille depuis 30 ans en bio et depuis 15 ans en démarche équitable. On sert donc notre clientèle en France, mais aussi dans le monde entier.
Et quel process industriel finalement vous avez ?
On fait des extraits au sens large, donc on va utiliser la vapeur pour faire une distillation. Donc on va obtenir des huiles essentielles et des eaux florales par ce procédé. On va aussi sécher des plantes qu'on va ensuite couper, trier, mélanger entre elles, pour faire des cocktails de plantes qui vont être utilisées pour des tisanes, par exemple, ou pour des applications d'extraction.
Vous avez participé à la conférence « L'intelligence artificielle au service de la transition de votre entreprise » proposée par le campus de BioVallée. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Que Cette évolution technologique va mettre à disposition des outils de traitement de grandes quantités de données qui vont permettre de rendre plus efficaces certains processus ou de développer de nouvelles activités. Avec, en plus, je ne l'ai pas précisé, mais on est une petite société, on est 25 aujourd'hui sur la Drôme. À terme, cet outil peut nous permettre d'exploiter des données que nous avons, parce qu'en étant actif, on accumule un certain nombre de données qu'aujourd'hui on n'exploite pas. Et avec les outils d'intelligence artificielle, je pense qu'on sera capable de mettre beaucoup plus de valeur ajoutée. Par exemple, des données agronomiques, les rendements de parcelles, la nature des sols, le climat local, des choses comme ça. Ça peut être aussi des données analytiques. On fait du contrôle qualité de manière très forte. Nos clients sont très exigeants sur la qualité des produits qu'on leur fournit, liés à la sécurité alimentaire ou à des éléments d'activité cosmétique, par exemple. Et on a accumulé depuis un certain temps des quantités très importantes de données sur les profils analytiques des huiles essentielles, par exemple, ou des plantes que l'on travaille. Et aujourd'hui, on n'en tire qu'une toute petite valeur ajoutée. Et je pense qu'avec ce type d'outil, on sera capable d'affiner des niveaux d'exigence, des spécifications qui nous permettront de mieux maîtriser la qualité, favoriser le développement de ces pratiques-là, parce qu'on aura identifié une corrélation entre la bonne pratique et une meilleure qualité ou un meilleur rendement des produits obtenus.
Est-ce que quelque part, Elixence finirait par être prescripteur d'une activité agricole ?
On l'est déjà en fait, hein, puisque nous on passe des contrats long terme avec nos producteurs. Quand on a besoin d'une plante, on va demander à nos producteurs de mettre en culture cette plante et de nous apporter le résultat de leur culture pour qu'on puisse la transformer. Et ça se fait dans un cadre où on s'engage à acheter la totalité des productions qui sont contractualisées et les producteurs s'engagent à nous apporter la totalité des productions contractualisées. Donc effectivement, on leur prescrit un certain nombre de développements agronomiques. Voilà, et en plus, on leur apporte un appui technique par notre ingénieur agronome qui les guide, qui les oriente sur les cultures dont on a besoin, éventuellement plutôt nouvelles. Essayer de diversifier aussi les activités de nos producteurs. C'est aussi ça qui permet d'avoir beaucoup d'informations et de données et d'essayer, notamment en combinant avec l'intelligence artificielle, à terme, de pouvoir tirer encore plus d'enseignements de toutes ces expériences qui sont menées.
Et dans l'entreprise elle-même, est-ce que l'intelligence artificielle viendrait à modifier aussi certains process ?
Alors, il y a déjà des choses que l'on a mis en place sur des systèmes un peu de gestion électronique de documents et de reconnaissance d'images. Par exemple, on a un logiciel de saisie de notes de frais ou de saisie de factures fournisseurs qui, juste par un scan maintenant, est capable de reconnaître une facture de péage pour un déplacement, de reconnaître une facture avec des libellés précodifiés. Ça allège, par exemple, des saisies de documents comptables.
Pour vous, c'est un gain de temps ou c'est un gain d'emploi ?
Il y a un peu des deux. Forcément, ce sont des gains de temps, mais l'idée, c'est d'éliminer des tâches à plus faible valeur ajoutée pour que nos équipes se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je préfère que mon comptable il se pose des questions sur, par exemple, du contrôle de gestion plutôt que de passer du temps à faire de la saisie de factures.
Et d'un point de vue personnel, Jean-Pascal Abdelli, quel est votre avis sur l'IA ?
Moi, je suis plutôt un cursus scientifique, donc je suis plutôt ouvert au progrès et curieux par rapport aux évolutions technologiques. Après, c'est bien évident que tous ces outils, comme n'importe quel outil, il faut l'utiliser à bon escient et dans des démarches plutôt bienveillantes. Voilà, pour ma part, j'imagine utiliser plutôt des fonctionnalités positives et constructives par rapport à la philosophie de l'entreprise et un peu à la vocation de développer des choses pertinentes pour nos clients et nos partenaires producteurs. Et nos salariés.
Et pour vous, il faudra toujours un contrôle humain derrière l'IA ?
Je pense. Ça ressortait bien de la présentation. C'est une IA qui réplique des programmes qui sont construits par des humains et qui les réplique plus vite, de manière beaucoup plus automatique. Mais c'est quand même toujours des humains qui la construisent, qui la pilotent. Et souvent, par rapport à la manière dont ils l'ont construite, ça guide les résultats qu'on obtient. Donc il faut toujours qu'on ait ce recul, cet esprit critique pour savoir si ces développements sont pertinents et si l'utilisation donne satisfaction par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Il y a tellement d'endroits où aujourd'hui on a trop de normes, il ne faudrait pas qu'on en manque sur des choses aussi importantes comme le développement de l'IA.
Entreprise familiale. Nous fabriquons des arbres fruitiers à craie et nous travaillons exclusivement pour les arboriculteurs. Toute espèce, abricots, pêches, cerises, pommes, poires.
Isabelle Vauvy, directrice.
On a une spécialité dans la fabrication des fruits à noyaux, c'est-à-dire des pêches, abricots et cerises.
Qui sont des fruitiers très prisés de la vallée d'Adour.
Oui. C'est vrai. Et puis du reste de la France aussi, on vend aussi un petit peu à l'export avec un bureau commercial qui vend nos plants à l'export. Mais c'est vrai qu'à titre local, on a participé à une action de Biovallée qui s'appelait Sous les arbres, enfin qui s'appelle toujours Sous les arbres. On a depuis quelques années fourni toutes les fins de saison gratuitement des arbres pour que les collectivités, écoles, mairies, voilà, etc., organisations, associations, puissent avoir quelques fruitées à planter.
Voilà, c'est une opération d'ailleurs qui reprend dans pas très longtemps.
Oui.
Vous avez participé à la conférence « L'intelligence artificielle au service de la transition des entreprises oui. ». Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Bon, alors, j'en ai retenu que d'abord, le champ des possibles était vaste. Ce qui pouvait sembler être très, très complexe et très, très lointain pouvait avoir une utilisation très simple. Nous-mêmes, dans nos pépinières, et en agriculture, hein, il y a déjà beaucoup d'outils hein, qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais voilà, j'ai compris qu'en réalité, c'était un outil et non pas une menace qui nous a permis de dédramatiser cette nouvelle invention. Quoi.
Parce que j'en ai retenu. Vous aviez une appréhension ?
Pas spécialement, mais enfin, si vous voulez, c'est l'idée globale, l'idée qu'on entend qu'en fait, l'intelligence artificielle remplacerait l'homme, l'intelligence artificielle, voilà, est une menace pour l'espèce humaine, d'une certaine façon, comme une sorte de monstre que l'homme créerait et qui, à la fin, finalement, finirait par prendre sa place. Voilà, c'est une espèce de fantasme collectif et je trouve que l'intervenante, elle avait quelque chose de très factuel et clair et aussi pas mal de distance par rapport à cet outil qu'elle connaît parfaitement pour pouvoir le remettre à la bonne place. Quoi.
Quelle relation vous voyez entre cet outil et votre entreprise précisément ? Quelque chose que vous allez explorer ?
En fait, on a déjà commencé à explorer certaines choses. On travaille avec un groupe qui s'appelle Starfruit, qui est notre groupe d'édition variétale. Et donc, dans ce cadre-là, on a une petite activité de R&D. Et du coup, on a exploré de l'intelligence artificielle qui nous aiderait à identifier certaines maladies. Mais c'est très compliqué à mettre en place chez nous parce que la nature de la culture rend difficile en fait la prise de photos qui permettrait d'emmagasiner de la donnée pour l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui techniquement, concrètement, est difficile à réaliser. Donc pour l'instant, pour nous, les solutions, elles sont pas, c'est pas demain quoi. Pour l'instant, c'est pas suffisamment probant pour remplacer notre œil quoi.
Et pour la gestion de vos données commerciales, j'allais dire, ou internes à l'entreprise ?
Écoutez, non, là pour l'instant, on n'en est pas là. On reste sur une entreprise avec une gestion commerciale relativement simple et aussi assez artisanale. Hein. Nous, on est un producteur, donc on a un stock qu'on rentre, un stock qui bouge, très connecté à la contrainte naturelle. Donc ce stock, il est aléatoire et il varie. Il n'y a pas tellement autre chose que nos yeux qui peuvent aller vérifier sur le terrain ce qui pousse moins bien, etc. Donc, on n'a pas encore utilisé à l'intérieur de notre organisation et pour nos besoins de vente, on n'a pas encore besoin de cet outil-là, quoi. On n'est pas suffisamment grand non plus pour le faire.
Et sur le plan personnel ?
Ben, moi, j'ai 52 ans. Je me sens quand même assez loin de ces inventions-là. Je n'ai pas du tout envie d'en avoir un usage quotidien. On rend le cerveau très paresseux à lui substituer toujours des outils, des aides, etc. Donc, je dirais que ce n'est pas un monde pour moi très désirable, quoi, ce monde de l'intelligence artificielle. Si c'est un outil au service des entreprises et un outil qui facilite la vie, le quotidien, mais je trouve que quand ça prend la place de la pensée, ça, je trouve que ça, souvent, ça rend l'humanité, ou en tout cas les individus, de plus en plus paresseux intellectuellement, quoi. Ça prive l'individu de l'effort, en fait, qu'il faut pour arriver à le formuler, parce que c'est un vrai effort. Et du coup, cette gymnastique-là de la pensée, s'il ne la pratique plus, eh ben, il la perd, quoi. Donc, c'est ce que je crains.
Violaine AgroScience est une entreprise internationale qui possède 5 sites dans le monde entier, dont un dans la vallée de la Drôme à Livron. Nous produisons des insectes pour contrôler les ravageurs en culture, notamment sur les grandes cultures comme le maïs, mais également sur les cultures protégées, donc toutes les cultures sous serre comme les fruits, les tomates, les concombres. Et donc nous produisons des insectes et des acariens. Donc on est un peu une alternative aux produits phytosanitaires. Et sur le site de Livron, on est à peu près 70 personnes.
Alexandre Versini, directeur régional.
Pour faire simple, la production d'insectes, c'est comme un élevage bovin ou caprin, mais à une échelle beaucoup plus petite. Il suffit simplement de mettre les insectes, les animaux en l'occurrence, tous ensemble dans la même salle avec de la nourriture, les bonnes conditions. Et ils font tout ce que des animaux tous ensemble doivent faire, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent, ils se multiplient. La difficulté dans notre métier, c'est de maîtriser à la fois les aliments. Vous vous doutez bien que quand on produit des insectes, il faut des aliments qui soient complètement libérés de tout produit chimique, de tout insecticide, etc. Donc ça, c'est des produits qu'on source dans la Drôme, vraiment dans des cahiers des charges très spécifiques. Et puis après, il y a tout ce qui est conditions abiotiques, donc tout ce qui est température, humidité, CO2 et une multitude d'autres facteurs. Alors comme c'est des animaux qui sont tout petits, évidemment, on en met beaucoup, donc ça prend beaucoup de place. C'est très manuel en fait, c'est une activité très manuelle. On est un peu des fermiers du minuscule. Le prédateur le plus connu, c'est la coccinelle. Alors grosso modo, à Livron, on produit des coccinelles pour lutter contre les pucerons. C'est le best-seller, c'est le produit le plus connu. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Sur l'ensemble du groupe, on produit plus de 50 espèces. Hein, donc voilà. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de récupérer, d'identifier les prédateurs qui sont d'intérêt dans la nature, de les produire à plus grande échelle et de les proposer au moment où les ravageurs se présentent dans les cultures, de les proposer en plus grande quantité. Donc en fait, nous, on agit en proposant plus de prédateurs qu'il y a naturellement dans la nature. Donc du coup, l'apport de prédateurs va diminuer considérablement la population de ravageurs. Et une fois que la population de ravageurs sera diminuée, voire éteinte, ces pauvres prédateurs vont pas continuer à se reproduire et donc les populations vont diminuer. Donc, on amène une solution et cette solution, elle est entre guillemets temporaire et permet de faire le job sur la période où les cultures sont sous la pression des ravageurs.
En se régulant elles-mêmes et en ne polluant pas le sol. Vous avez participé à la conférence « L'intelligence artificielle au service de la transition de votre entreprise » proposée par le campus BioVallée. Qu'en avez-vous retenu ?
Déjà qu'il y avait plusieurs types d'intelligence artificielle. Hein. C'était assez sympa de comprendre qu'entre l'intelligence artificielle générative et prédictive, c'était deux choses qui étaient complètement différentes. C'est quand même encore aux prémices. Et c'est encore, entre guillemets, managé par des humains. Et grosso modo, une intelligence artificielle ressortira ce qu'on y met dedans. Alors après, on peut toujours dire, est-ce que les gens sont bien intentionnés ou pas intentionnés, etc. Aujourd'hui, ça a l'air, de mon point de vue, assez sous contrôle. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le petit chimiste, quoi.
Et qu'est-ce que vous verriez comme application possible à l'échelle, par exemple, de Bioline AgroScience à Livron ?
Alors là, j'ai vu qu'il y avait certains de mes confrères j'entreprends en BioVallée qui étaient beaucoup plus avancés que nous pourront faire des contrôles qualité, faire des projections sur les types de défauts, etc. Donc ça peut être, ça m'a l'air intéressant. Nous, pour l'instant, on est au niveau zéro de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos process industriels et même dans nos process tout court. Donc, que ce soit des process RH ou des process, etc.
Parce que quand vous nous avez parlé, par exemple, de cette expertise que vous mettez en place sur les cultures, étudier quels sont les ravageurs, etc., est-ce que là, il y aurait quelque chose qui pourrait être facilitant, vous n'avez pas vu ?
Alors certainement, probablement. Après, aujourd'hui, nous, on ne l'a pas intégré dans notre screening. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, on a des équipes, des commerciaux qui sont sur le terrain, qui accompagnent les producteurs, qui vont sur le terrain, qui vont aider les producteurs à identifier leurs problématiques. Alors oui, on pourrait se dire qu'une intelligence artificielle, demain, il y a une super application sur un téléphone, on scanne l'insecte ravageur et pof, on a tout le plan de prophylaxie. Mais aujourd'hui, on est encore quand même dans des métiers où on a beaucoup de contacts humains. L'avantage de ce que j'ai compris de ces intelligences artificielles, c'est qu'elles pouvaient, absorber une quantité d'informations absolument phénoménale que nous, êtres humains, n'arriverons jamais avec la plus grande volonté à intégrer de notre côté. Mais après, c'est ce qu'on en fait, puisqu'on n'est pas encore à un stade où le matériel ou les algorithmes ou les programmes arrivent à ce que l'intelligence artificielle réfléchisse par elle-même et imagine des trucs d'elle-même, en fait. Ça m'a permis de démystifier un peu le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai trouvé. C'est très intéressant.
Comment vous voyez l'avenir avec ça ?
Alors, est-ce que l'IA va nous donner un truc supplémentaire ? Alors là, je sais pas le dire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'on l'intègre ? Probablement. Est-ce qu'on a les compétences ? Pas sûr. Nous, on gère du vivant, on gère des organismes, on essaye de pousser la nature dans ses retranchements. On n'est pas là, on n'est pas une fabrique de robots, du moins pas encore. Je ne sais pas, peut-être qu'on sera un jour. Mais aujourd'hui, on n'est pas en train de monter des lignes de production à Livron pour produire des micro-insectes. Déjà que c'est suffisamment compliqué de faire avec ce qu'on a. On ne va pas rajouter des pannes mécaniques. Voilà. Peut-être que c'est l'avenir. Enfin, on voit bien tous les petits robots, etc. Alors, est-ce que les petits robots, c'est de l'IA ? Je pense qu'on arrivera à de l'intelligence artificielle vraiment proprement dit quand un robot sera capable de construire un autre robot sans qu'on leur dise de le faire, quoi. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là. On verra ce que l'armée nous amènera, parce que souvent, c'est par là que ça se passe.
Un monde de demain.
Quelque chose de plutôt positif, j'imagine, quand même, d'une certaine manière. Un monde où on est quand même plus conscient sur plein de choses, sur l'écologie, sur le faire attention aux autres. Ouais, quand même, un monde positif, évolué, j'espère.
J'ai passé 15 ans à Montpellier pour les études. J'ai fait des études en théâtre et j'ai eu des soucis de santé et je suis revenu là. J'ai bossé un an à Trésor et là, je viens juste d'arrêter. J'ai eu tellement un état de un peu de désillusion, de trucs violents qui me sont arrivés que du coup, en fait, maintenant, je prends ce qu'il y a à apprendre et j'avance comme ça, quoi. Donc, voilà.
Et le monde de demain, ça t'évoque quoi ?
Bah, ça m'évoque un peu de peur, quand même, parce que sans parler de ma vie personnelle, hein, du monde, quoi. J'évite de mater l'actualité parce qu'il y a quand même des guerres de partout, de la pollution, enfin il y a tout qui part en live. Mais moi j'ai envie d'être optimiste en vrai, de me dire ça va le faire, voilà.
Olivier Frérot et Frédéric Lamantia, intervenants lors de la conférence « Réinventer la société, repenser nos valeurs dans un monde en profonde mutation ». Proposé par la SMASH le 21 novembre 2024 au campus Biovallée.
Je suis depuis 8 ans dans une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Oxalis, qui est basée à Aix-les-Bains. Et je propose des conférences, des formations autour de ce que j'appelle la métamorphose de notre société. Pour choisir aussi du côté de là où je pense ça vaut le coup d'être, c'est-à-dire là où la vie est en croissance, où la biodiversité est respectée. Je développe une pensée très critique de la technoscience en général. Et là, nous sommes associés avec Frédéric pour essayer de développer cette pensée-là aussi.
Je suis géographe de formation. J'ai beaucoup travaillé sur des questions de géographie culturelle, un petit peu de géopolitique, et aussi sur des questions liées au patrimoine, Et la question du développement durable, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un terme qui est parfois un peu galvaudé, moi m'intéresse aussi avec un, je dirais, une double approche. Il y a l'approche géographique, scientifique, propre à l'analyse des territoires, que j'ai enseigné à l'université, et puis il y a aussi un domaine de recherche qui est la perception de ces territoires par notamment les artistes et notamment les musiciens, puisque je suis également musicien, en écoutant, en analysant un petit peu le propos des artistes. Et parfois, dans leurs œuvres, on trouve des éléments sensibles. Parce que je crois que le paysage, je crois que le territoire a aussi une dimension sensible. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à discerner dans, je dirais, les sciences classiques, si j'ose dire.
Tous les deux, vous posez la limite d'une approche du tout rationnel, du tout technologique. Comment cette approche peut-elle être dépassée dans cette civilisation où justement tout est tout rationnel, tout est tout technologique?
Eh bien, il y a plein de lieux où c'est dépassé, où ça se vit autrement. Peut-être en changeant le regard et de voir qu'en fait, les vivants que nous sommes, nous les humains, ou en lien avec les autres vivants, avec la matière, quand on la voit de façon respectueuse, eh bien d'autres valeurs que la toute rationalité est évidemment là, à condition de l'expérimenter. Avec nos sens, comme le disait Frédéric, c'est effectivement l'intelligence sensible, émotionnelle de ce côté-là. Voilà, tourner son regard et à ce moment-là de découvrir que oui, il y a bien d'autres mondes. Hein. Et dans ce cas-là, de tenir à distance, je dirais à distance, ce monde hyper technologisé que le mainstream nous dit, mais qui aujourd'hui, je crois, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, ne nous enthousiasme plus. Donc comment effectivement mettre la technologie à distance et remettre la main sur elle au service de la vie et non pas l'inverse.
Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que quand je regarde et surtout que j'écoute notamment des chansons, la chanson est une œuvre d'art, un petit peu un concentré d'un certain nombre d'observations. Les artistes, et notamment les auteurs, compositeurs, interprètes, ressentent qu'il y a quelque chose qui est en train de décrocher. La technologie nous pousse aujourd'hui à, quelque part, à surconsommer, à surinvestir, à sur tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que la technologie doit être bannie. On peut faire des choses merveilleuses avec la technologie, même l'intelligence artificielle, mais il y a des garde-fous. Et les garde-fous, c'est peut-être la poésie, justement.
Petit à petit, nous faisons communauté sur des nouvelles valeurs, ou plutôt des valeurs qu'on vient retrouver depuis longtemps. Au début du XXIe siècle, peut-être qu'effectivement, il faut réinverser les choses et qu'il faut mettre davantage de la poésie en avant et le rationnel en retrait.
La croissance est quelque chose qui, quelque part, est devenu une religion. Et c'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, on aimerait peut-être sortir de ce système, mais ce modèle-là est tellement ancré dans nos habitudes, dans presque nos... Enfin, c'est très difficile d'en sortir. Et on comprend d'ailleurs que beaucoup de gens aient peur de perdre quelque chose pour aller vers l'inconnu. Les chefs d'entreprise, les hommes politiques, ils ont aussi des responsabilités à tenir. Alors, que faire? C'est vrai qu'il y a quand même des probabilités qu'il faille qu'on aille vers autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, on ne peut pas le faire n'importe comment, parce qu'on a quand même la responsabilité de milliers, de millions de personnes. Je crois que Biovallée, c'est un territoire école, un lieu d'expérimentation, qui s'en est donné les moyens, on aimerait toujours avoir plus de moyens, mais qui a permis de se poser un certain nombre de questions, notamment avec des choses quand même assez concrètes, de savoir comment on va se déplacer, comment on va se chauffer, quel rapport on va avoir avec la nature. Territoire symbolisé aussi par la Drôme qui est une rivière, dernière rivière naturelle d'Europe, il n'y a pas de barrage, on l'a laissée libre. Et cette rivière, c'est aussi le symbole d'une volonté d'accompagner, comment dire, un monde qui soit le plus doux possible. Et c'est vrai qu'en fait, il faudrait peut-être vivre un petit peu comme avec le constat de Gilbert Rist. Hein. Et voilà, je le cite, hein, il dit « En réalité, nous savons comment sortir de l'impasse. Pour nous guérir de notre addiction à la croissance, nous devons restaurer la notion de bien commun, réhabiliter la réciprocité, en finir avec l'endettement et renouer le dialogue avec la nature. » Voilà, et je pense que le dialogue tout court, parce qu'aujourd'hui, on ne se parle plus. Je crois que c'est aussi une désespérance dans la société aujourd'hui. Les gens ne se parlent plus.
Il y a des lieux plus lumineux que d'autres et la Biovallée fait partie de ces lieux lumineux depuis déjà un certain temps, qui accueillent des initiatives et elles sont relativement protégées, on va dire ça comme ça, pour justement se déployer. ce qui n'est pas le cas partout. Et en se déployant, eh bien, c'est un cercle vertueux qui se passe à travers différentes façons d'entreprendre ou d'entredonner entre des entreprises dites plus ou moins classiques, des associations, des personnes, des humains et les autres vivants. Et la rivière, effectivement, est de ce point de vue-là un véhicule extraordinaire de mise en relation de tous ces vivants à travers une vision, je dirais, terrestre, pour reprendre le mot de Bruno Latour, hein, comment redevenir terrestre et non pas partir dans un virtuel et où nos sensibilités sont niées, en fait. C'est bien, c'est l'expérience que nous avons, quand je suis en lien avec d'autres humains sur un territoire, avec des forêts, des champs, des jardins, des rivières. Il y a quelque chose en moi qui vibre. Donc retrouver ça, c'est bien.
Et en quelques mots, qu'est-ce qui vous donne confiance en l'avenir ?
J'avais envie de dire, en pensant à Jacques Brel, c'est l'amour qui permet, l'amour avec un grand A, d'ailleurs, quand il a écrit sa chanson « Quand on n'a que l'amour », qui est la chanson qui va lancer sa carrière, il ne l'a pas écrit comme ça. Il écoutait la radio, il tombe sur une émission où la speakerine racontait des choses abominables, il a coupé la radio et il a écrit cette chanson pratiquement sur le champ, en réaction face à cette morosité, donc c'était déjà morose à l'époque. Les mauvaises informations se vendent mieux que les bonnes, c'est dramatique. Et il faudrait avoir des radios qui diffusent des choses positives. On est abreuvé de choses moches. Donc évidemment, c'est sûr qu'après, les gens finissent par être défaitistes. Et la meilleure manière de sortir de la dépression, c'est rentrer dans l'action. Voilà, donc je crois qu'il y a, en fait, c'est pas forcément compliqué, c'est un déclic. Par contre, être optimiste, c'est un travail.
La confiance, elle est effectivement dans notre capacité d'amour, au sens où l'amour est au cœur de la vie qui n'est que création de relations, tissu de relations. Développer des relations, c'est être attentif aux uns et aux autres, aussi à soi-même, hein, dans la mesure où on est aussi plusieurs en soi-même. Donc cette confiance dans la vie qui me traverse, moi je suis un être vivant, je ne suis pas un paquet de big data. Et je suis un être de chair et de sang sensible. Et m'enraciner dans dans ce mystère de la vie, cette confiance-là que malgré toutes nos bêtises singulières et collectives, ça tisse. Mon expérience, c'est que ça tisse encore plus quand moi, je suis créateur de biodiversité. Je l'augmente avec d'autres, avec les autres vivants. Je réalise la croissance de la vie. Donc pas la croissance quantitative des biens matériels souvent inutiles, non, la croissance des relations. Donc c'est vraiment de ce côté-là que se trouve, me semble-t-il, l'espérance, qui n'est pas dans le champ du rationnel, mais qui est dans la profondeur de nos vies intérieures, de nos vies spirituelles, personnelles et collectives. Et quand je travaille, comme le disait Frédéric, de ce côté-là, quand je suis baigné dans ces dynamiques-là, ça coule, quoi. C'est comme la rivière qui coule.
Le 25 septembre 2024, Laurence De Villers, professeure à l'Université de Paris-Sorbonne, chercheuse au CNRS sur le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, intervenait à l'invitation de l'association BioVallée lors de la conférence « L'intelligence artificielle au service de la transition des entreprises. Mirage ou miracle ?» Des habitantes et habitants du Diwa, dans la vingtaine et la trentaine, ont pu lui soumettre leurs questions.
Est-ce qu'on va quand même travailler autant, nous les humains ?
Plus dans le domaine social, justement, au niveau des boulots, ça prend de plus en plus de place, on voit de moins en moins de gens aussi travailler. Et comment ils il compense le fait que ça reste une machine et que quand tu remplaces un être humain, t'as pas non plus la particularité de la personne, la conscience. Comment tu pallies à ça en fait en mettant un robot à la place d'une personne?
Est-ce qu'il y aura encore des artistes?
Non, je pense que c'est important de bien comprendre que ces machines ne vont pas remplacer les humains. On peut être remplacé que dans des tâches très mécaniques. L'humain a beaucoup de capacités d'adaptation, d'imagination, de créativité. Il peut choisir quelque chose de très peu probable, mais avec une charge morale importante. Donc ces choix n'ont rien à voir avec les choix que peuvent faire ou peuvent inciter à faire des machines. Du coup, c'est important de penser que pour être créatif, justement, on aura toujours besoin des humains. Les machines ne vont pas être créatives au même sens que ce qu'on entend par ce terme utilisé pour l'humain, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas choisir des choses très sensibles. Elles n'ont aucune notion de ça, ni de moralité, ni d'affectif, ni de quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucun raisonnement de concept de plus haut niveau. La créativité, c'est ça avant tout. Et je pense que donc là, sans ces aspects de réflexion de haut niveau, la machine n'arrivera pas à être créative et donc ne va pas remplacer l'homme dans tout ce qu'il fait.
Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dangereux parce qu'on peut faire quasiment tout avec, on peut reproduire la voix des gens, on peut reproduire le faciès des gens, on peut faire plein de choses qui peuvent vraiment nuire à la réputation de certaines personnes ou à la vie de certaines personnes? Comment faire pour l'utiliser d'une façon justement intelligente, mais sans que ce soit dangereux et sans que ça change le monde aussi, parce que je pense que ça prend peut-être un peu trop de place dans notre monde et que c'est pas naturel, quoi. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de pas naturel.
Est-ce que vous êtes sûr réellement à 100% que ça peut pas dégénérer et qu'elles finissent, au pluriel, par prendre le contrôle, entre guillemets, de l'humanité à travers des puces, à travers toutes sortes de choses technologiques qu'on peut inventer?
Alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil d'un pouvoir énorme. L'arrivée de ces systèmes dans beaucoup de domaines vont à la fois améliorer un certain nombre de choses, des connaissances en médecine, sur l'écologie, mais en même temps vont nous rendre dépendants d'objets dont on n'a peut-être pas besoin. Donc, la technologie s'insère un peu partout dans nos vies, c'est à nous de réfléchir aussi à ce qu'on veut en faire. On a tendance à dire, bon, c'est la faute des grands groupes qui manipulent à travers ces objets ou à travers les réseaux sociaux qui font que, mais c'est quand même nous qui allons sur les réseaux sociaux, c'est quand même nous qui regardons la publicité avec intérêt, qui sommes aussi fascinés par les écrans, son téléphone, etc. Donc, je crois qu'on a besoin de comprendre que dans la société avec ces technologies, on a deux choix. Soit on est avec des prothèses qui vont nous remplacer pour plein de choses, auquel cas on ne saura peut-être plus faire ce que les machines vont faire, ce qui serait quand même compliqué. La deuxième solution, c'est d'imaginer ces outils pour augmenter finalement ou améliorer finalement notre intelligence. C'est-à-dire ne pas remplacer l'intelligence, mais améliorer l'intelligence des humains. Et je pense que dans ce concept-là, on aurait plus à gagner. À savoir, lorsque j'utilise une machine pour faire quelque chose d'un peu complexe, je ne prends pas ça comme un outil que je vais utiliser, mais j'essaie de comprendre en quoi cette machine a réussi quelque chose que peut-être je ne sais pas faire. Et c'est là qu'on va gagner en compréhension dans l'environnement de beaucoup de choses. Alors, tout le monde me dit, mais c'est un peu utopiste de penser qu'on va améliorer notre intelligence grâce à ces outils. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est. Je pense que dès qu'on va commencer à comprendre que nos enfants risquent d'être vraiment pénalisés par tous ces écrans omniprésents, parce qu'ils ne vont pas stimuler du tout l'intelligence, on va se rendre compte qu'on a besoin de faire ce pas de côté et de comprendre en quoi ça améliore et quels sont les risque énorme pour l'humain et pour la société. Comment marche une IA générative? Elle fonctionne comme un encodeur-décodeur, c'est-à-dire qu'en fait, elle crée un modèle à partir de milliards de données, un modèle évidemment plus compact que l'ensemble des données, et donc pour cela, elle le code. Il y a à la fois du positif, puisque peut-être qu'on n'aurait pas pu lire tous ces documents parce qu'il faudrait deux vies, et en même temps, elle simplifie et elle encode d'une certaine manière. Ensuite, quand elle va décoder, eh bien, elle risque d'aller chercher dans un puzzle, puisqu'elle a encodé de façon assez simple des informations. Ça fait comme un puzzle de mots, ou même des fois de parties de mots. Elle va essayer de prédire le prochain mot ou partie de mot, puis le prochain du prochain, etc. Et là, elle peut faire des erreurs. Elle peut faire des erreurs parce que dans son modèle, il y a beaucoup d'informations de prises en compte, mais pas tout. Et en même temps, elle va choisir les plus probables. Donc, elle peut aussi dire des choses totalement absurdes, comme dire des choses qu'on va trouver très intelligentes. Et donc, ces capacités comme ça de produire du langage quasiment humain nous donnent l'impression que cette machine est intelligente. En fait, elle ne fait qu'une génération à partir d'un algorithme mathématique, statistique, et qui n'est pas du tout intelligent en soi. Ce sont les humains qui l'ont construit qui sont intelligents. Donc, méfiance, la machine ne raisonne pas telle que l'humain, elle ne fait que produire les mots ou formes les plus probables en fonction de son modèle.
Pourquoi est-ce qu'on continue perpétuellement à leur donner de la puissance alors qu'on ne maîtrise pas encore les bases de l'IA ?
En fait, elles seront forcément limitées. Hein, la question de la peur de la singularité ou de la super intelligence, etc., est hors de propos. Il y a des facteurs d'imaginaire, de science-fiction, qui sont très liés au marketing aussi autour de ces objets. Je pense qu'il faut avant tout ramener cette discussion à quelque chose de plus rationnel et de commencer à vraiment pousser les enfants partout. Et je vous encourage à étudier en fait ces objets. L'informatique, c'est pas seulement savoir coder, c'est aussi comprendre les concepts qui sont derrière, et les comprendre, ça permet de mieux envisager à quoi ça peut servir. Il y a un fort pouvoir pour nous dans beaucoup de domaines, hein, et en même temps à comprendre les risques, hein, qui sont justement cette non-compréhension. Et alors la question que vous posiez, c'était est-ce qu'on les maîtrise ou pas ? Non, on ne les maîtrise pas. Il y a une part d'incertain dans la production de ces machines. Hein. J'aime bien reprendre les propos de Blaise Pascal qui disait « savoir... agir avec raison dans l'incertain », ben, on ne sait pas, puisque dans le puzzle, elle va choisir avec un modèle mathématique parmi un grand nombre de données, et on comprend bien que c'est lié à la fois à cet algorithme et puis aux données qui sont à l'intérieur et à tout un ensemble de paramètres en fait d'optimisation de ces systèmes. Et l'humain laisse la machine dérouler cela, donc en autonomie, et donc il n'est pas là pour vérifier que ce qu'elle produit est sûr à 100%. Et puis qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est là où il faut absolument apprendre à discerner en fait le plus possible ce qui paraît vraisemblable, ce qui est invraisemblable. Il faut travailler sur quelles sont les sources en fait de tout cela. En tant que scientifique, on s'appuie toujours sur les recherches des autres pour aller un peu plus loin. Et bien dans la société, il faut comprendre que il faut lire plusieurs journaux, il faut lire plusieurs sites web qui proposent des informations. Il faut recouper tout ça. Il y a un travail à faire chacun pour essayer de comprendre au mieux en fait les situations proposées et pour pas suivre des fake news et devenir en fait très dépendant en fait de ces machines qui produiraient qu'une seule solution. Vous voyez, ce serait la fin du libre arbitre.
À qui va encore aller les bénéfices, à qui ils vont aller ?
Alors les bénéfices, ils sont pas seulement monétaires, ils peuvent être aussi de mieux comprendre ce qu'est l'humain, comment il vit en société, optimiser de l'énergie, des valeurs. Enfin, on peut y trouver beaucoup d'utilité. Hein. Je ne pense pas qu'il faut diaboliser l'intelligence artificielle. D'abord, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est un domaine scientifique qui regroupe beaucoup de technologies différentes. Celle dont on entend parler tous, c'est l'IA générative à base de réseaux de neurones. Moi, c'est ce que j'ai étudié il y a plus de 30 ans. On n'avait pas les mêmes qualités parce qu'on n'avait pas la puissance des machines pour faire fonctionner tout ça très vite. Donc, on n'avait pas non plus les immenses bases de données qui sont possibles d'utiliser aujourd'hui. De plus en plus, les acteurs industriel essaie de faire aussi des systèmes en open source qui permet la recherche et à des gens qui veulent innover de travailler sur ces modèles open source. Je pense qu'il faut arrêter tous ces délires là autour de la super intelligente et de la peur de jamais être au niveau. Il faut absolument se remonter les manches et puis travailler avec ces systèmes. Il y a tout un milieu de gens, toute une communauté scientifique, technologique, avec aussi des sciences humaines qui s'intéressent en fait au pouvoir de ces machines, à ce qu'elles peuvent produire et tout. Et donc on a besoin de toute cette recherche pour accompagner en fait les innovations. À qui ça va servir ? Ça va effectivement permettre de lever pas mal d'argent. Est-ce qu'il y aura effectivement des retombées économiques ? Je ne sais pas tout le temps. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, il y a un fort pouvoir à améliorer nos connaissances scientifiques et je pense que c'est très important, à condition de ne pas devenir des bêtas devant ces machines et en ayant peur, ce qui empêche finalement d'être curieux. Après, il y a toujours des cyberattaques, des malveillances, etc., qui sont moins bien. Je dis, il faut monter dans le train, là, avant tout. Je pense que demain, si vous voulez, quand on est médecin, il faudra aussi savoir utiliser tous ces outils au mieux. Quand on est dans le bâtiment ou en architecture, il faudra aussi s'intéresser à ça. Et il faut faire une part, laisser une part dans l'apprentissage des enfants, l'éducation à l'école, surtout, une part à la main, à l'esprit, sans la machine. C'est-à-dire savoir créer, savoir imaginer, sans avoir ces supports machines, et pour une partie, savoir les utiliser, connaître leurs usages et démystifier et ne plus en avoir peur.
La SMASH et l'association BioVallée organisent régulièrement des conférences sur le territoire de la BioVallée. Rencontre avec Julie Delclos, chargée de mission au pôle des savoirs de l'association BioVallée, et Patrice Partula, président de la SMASH.
J'ai effectivement moi une expérience en tant que chercheuse, donc j'ai effectivement réalisé une thèse, et puis j'ai fait d'autres expériences dans le monde de la recherche. Et j'ai toujours eu à cœur, dans ces expériences-là, de rendre facilement compréhensible ma recherche. J'avais aussi pour ça des activités d'enseignement. Et en fait, c'est ce qui est pour moi intéressant dans le pôle des savoirs, c'est-à-dire que je peux finalement, à travers ce poste-là et les missions du pôle des savoirs, participer à relier effectivement recherche et savoirs locaux et quiconque peut s'intéresser à ces sujets-là.
Quelques mots sur la SMASH, Société de mathématiques appliquées et de sciences humaines. C'est une société qui existe depuis une quarantaine d'années, qui travaille dans le domaine de la recherche avec un très fort partenariat avec le CNRS au travers d'une de ses unités de recherche qui est le CIRED, Centre international de recherche sur le développement durable. Nos activités se positionnaient jusqu'à maintenant majoritairement sur le volet du développement durable, de la transition écologique, avec une prédisposition également sur tout ce qui touchait aux sciences humaines et que nous essayons de développer davantage. Ce qui nous a amené à nous implanter à Eure, c'est effectivement l'existence de l'association BioVallée. Et puis, j'irais d'une façon plus générale de la caractéristique de cette BioVallée qui, pour nous, est un terrain d'expérimentation assez fertile en matière de développement durable et d'écologie. J'ai envie de dire que c'est un peu un laboratoire qui expérimente à son échelle un certain nombre de choses et qui, en fait, au travers de ces expérimentations au niveau local, apporte une réponse à des questions qui sont des questions beaucoup plus globales en matière de transition écologique, développement durable, agriculture bio ou coopération.
Quels sont aujourd'hui les enjeux relatifs à la transmission de ces savoirs ?
Je me suis posé la question sur la définition du savoir par rapport à la définition de la science. On peut voir la science comme un ensemble de connaissances qui vont être accumulés par de l'expérience, par différents essais, etc. Et le savoir pourrait aussi se traduire comme un ensemble de connaissances qu'on possède, sauf que derrière le mot savoir, pour moi, il y a aussi l'idée d'un verbe, une capacité à. Savoir conduire, ce n'est pas de la science, mais ça reste un savoir, parce qu'en fait, vous avez appris à conduire, vous avez des connaissances qui vous permettent de savoir conduire. Et en ça, je trouve que le mot savoir est intéressant, parce qu'il est cet ensemble de connaissances. Quand on utilise le mot science, on pense directement au savoir universitaire, à la science scientifique, etc. Alors quand on utilise le mot savoir, on est sur quelque chose de plus global.
Voilà, il y a une notion de pratique.
La science ne peut être qu'académique. S'il y a une distinction entre science et savoir, je dirais que c'est peut-être cette limite qui n'en est pas une, qui est sans doute floue entre ce qui relèverait de la recherche fondamentale et ce qui ressortirait d'une mise en œuvre sur le terrain, d'une expérimentation et d'acquis par le faire. Et c'est là où est toute la différence. Et aujourd'hui, il nous paraît tout à fait évident que les deux ne peuvent pas et ne doivent pas être déconnectés parce que l'un se nourrit de l'autre. Et c'est là où nous réussirons, je crois, à construire des savoirs et des connaissances qui nous permettront demain d'affronter les enjeux que nous connaissons en matière de transition écologique, par exemple. Si nous ne faisons que de l'incantation et si nous n'allons pas nous-mêmes sur le terrain faire ce que nous prônons, c'est-à-dire faire parler science et savoir.
Sur la partie transmission, il y a différentes façons de transmettre. On peut transmettre en demandant aux personnes qui sont là de réfléchir, d'analyser ou d'expérimenter, de découvrir, de mettre la main à la pâte. Enfin, il y a un enjeu sur lequel je voudrais juste focaliser aujourd'hui. Pour moi, c'est celui de la sauvegarde. Je prendrai l'exemple des peuples ou des civilisations à tradition orale. En fait, aujourd'hui, on sait assez peu ce qui était pratiqué, ce qui était pensé, etc. Et en fait, sauvegarder l'information, c'est le premier pas pour la transmission. Pour être sûr que tout le monde peut y avoir accès au moment où il en a besoin, mais aussi permettre à ceux qui transmettent d'avoir des bases solides présentes, que ce soit issues du monde de la recherche ou de retour d'expérience.
Moi, je rajouterais un deuxième élément. C'est celui de pouvoir transmettre une capacité à prendre des décisions qui soient éclairées. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises quelquefois sur des informations que j'oserais qualifier de peut-être superficielles et pas forcément scientifiquement vérifiées. Nous sommes dans un monde où l'immédiateté de l'information prime sur la qualité de l'information quelquefois. En ce domaine, la science ne peut pas souffrir de cette immédiateté. Elle a besoin d'être vérifiée, elle a besoin d'être confrontée à des éléments, elle a besoin de s'appuyer sur des éléments factuels et tangibles. Et ce n'est que si nous réussissons à transmettre ces éléments et à les conjuguer avec les savoirs, les expérimentations terrain, et que cet ensemble-là permet aux citoyens de demain de se forger une opinion qui lui permette de prendre une décision en toute connaissance de cause, voire même dans un certain nombre de cas de prendre des décisions qui soient des décisions collectives, là, effectivement, nous arriverons à faire en sorte que l'ensemble des citoyens aient davantage conscience des enjeux de demain en matière de transition écologique.
Biovallée est souvent qualifiée comme la vallée du vivant, donc qui est sans cesse en train de se questionner sur ses rapports au monde, à la société, au vivant, que ce soit animalier ou autre, hein, entre les hommes et les non-humains. C'est intéressant de se dire, on part d'où et où est-ce qu'on veut aller. J'aurais pas la prétention de dire là où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit réinventer et quelle société serait pertinente pour demain. Mais ce que j'observe, en tout cas ici sur le territoire Biovallée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir un format conférence. C'est-à-dire que vous permettez, avec un temps de conférence, de réunir des gens qui se posent ce type de questions, qui ont envie de changement, qui ont envie que ça évolue. Vous permettez qu'ils se réunissent, qu'ils puissent dialoguer. Et en plus, vous les alimentez par des savoirs ou des connaissances qui peuvent alimenter leurs réflexions sur ces sujets-là. Sachant qu'effectivement, l'intelligence artificielle, par ses outils, peut vous permettre d'améliorer certaines choses vis-à-vis de l'environnement, de la transition. Hein. Si vous êtes capable d'avoir un modèle qui vous dit, bah là, vous consommez tant, et en fait, il y a des moments où vous allez consommer plus que ce que vous devriez, ça peut vous aider à réduire votre consommation et, in fine, réduire la pression sur les ressources énergétiques, par exemple. A contrario, l'intelligence artificielle, c'est du numérique. Ça utilise aussi beaucoup de données, donc beaucoup de stockage, et ça nécessite aussi beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas si simple, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il faut arriver à calibrer les besoins qu'on va avoir et qui vont pouvoir permettre d'améliorer nos actions et nos pratiques vis-à-vis de la transition, mais aussi le coût que ça peut avoir, y compris pour l'environnement, le climat et la transition.
Je voudrais juste rajouter un petit mot sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous le retrouvez dans beaucoup de domaines, y compris même dans des domaines qui préexistaient, où on l'utilisait avant qu'on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une très grande force en matière de médecine. Il y a un très grand nombre de progrès médicaux qui n'existeraient pas sans l'intelligence artificielle. Un GPS, c'est déjà de l'intelligence artificielle, avec les avantages et les inconvénients que cela induit. Hein. À trop utiliser le GPS, on ne sait plus lire une carte.
Quelles sont les coopérations possibles dans ce domaine des savoirs?
Quand on parle déjà de coopération entre science et société, on peut mettre plusieurs choses derrière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la coopération entre science et individus sur de la simple vulgarisation, pour que tout un chacun puisse avoir accès à ces connaissances-là. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait en partenariat avec la SMAJ, du coup. Effectivement, mon poste à l'association Biovallée est cofinancé par la SMAJ pour faire ce pont-là, justement, sur des savoirs qui sont et locaux et qui concernent la transition écologique. Ensuite, pour moi, il y a tout un pan de relations entre sciences et société qu'on pourrait nommer de recherche-action, de sciences participatives. Ce sur quoi les chercheurs vont se questionner, analyser, expérimenter, soit pas issu seulement du laboratoire de recherche, mais que ça réponde à des enjeux locaux, à des questions locales que des acteurs, des structures peuvent se poser. Parce que souvent, il y a une méconnaissance du milieu de la recherche, et de l'autre côté, du milieu de la recherche, il y a une méconnaissance des besoins locaux. Typiquement, le fait que la recherche travaille souvent sur un temps long, c'est-à-dire que si vous avez une question aujourd'hui que vous vous posez et que vous souhaitez avoir la réponse dans 15 jours, le monde de la recherche aura du mal à vous apporter une réponse. Donc, permettre que petit à petit chacun apprenne comment fonctionne l'autre, comment travaille l'autre, ça permet de pouvoir arriver sur des compromis et des manières de travailler ensemble. Par rapport à ce que j'ai pu voir du monde de la recherche, c'est quand même assez rare qu'on dégage du temps et qu'on crée des postes pour pouvoir travailler sur ce type de sujet-là. C'est-à-dire que vous avez des structures qui vont pouvoir faire de la vulgarisation scientifique, hein. On peut penser à l'émission « C'est pas sorcier » de Fred et Jamy. Mais en fait, d'avoir quelqu'un dédié à un type d'action qui est vraiment dans l'interface, c'est-à-dire faire de la vulgarisation scientifique, mais aussi mettre en relation des chercheurs et des acteurs locaux, participer à une connaissance du territoire et de ses savoirs, ce que les gens font ici en local, enfin, ce type de poste-là, donc in fine, ce type de mission, ça existe quand même assez peu. Donc ça, c'est le partenariat avec la SMASH qui permet ça.
Je crois que c'est une forme d'innovation dans nos travaux scientifiques. Nous ne faisons pas que du partage de savoirs universitaires. Hein, l'amphithéâtre de Heure, nous ne l'utilisons pas comme salle de cours, mais bien comme salle d'échange, de débat. Nous allons chercher la contradiction avec les acteurs locaux pour enrichir cette connaissance et ce savoir. Et je dirais de façon plus globale, ça nous permet peut-être de concilier science, savoir, éthique, sobriété et avancée technologique et progrès en matière de transition écologique.
Un monde nouveau. Changement subi, changement choisi. Vers quel monde allons-nous ? Une réalisation Erdiwa en partenariat avec l'association BioVallée, également diffusée sur Radio Saint-Ferréol. Une émission à retrouver sur le site erdiwa.fr, rubrique Il est une vallée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.
Je ne comprends pas les réactions humaines. Après tout, j'essaie simplement de faire au mieux mon travail.